Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Je suis aujourd'hui avec Khalil Mouna, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Ravi d'être avec vous, ravi de vous recevoir. Alors, cofondateur et directeur général de Glyph. Qu'est-ce que Glyph ? Une application ?
Oui,
déjà.
Glyph, c'est uniquement une application mobile. C'est un réseau social du livre, un réseau social pour les lecteurs et de manière plus générale, une application du livre. Pour les lecteurs.
Alors, on peut la retrouver sur l'Apple Store, sur Google Play, etc., Android.
Sans problème.
Alors, comment ça se passe ? Tout le monde y a accès ?
Tout le monde y a accès. C'est gratuit, ça le restera, même si nos abonnés ne sont pas le produit. Le produit est ailleurs. comment ça fonctionne ? Le principe est assez simple. Hein. Donc, on télécharge l'application, on rajoute ces livres qu'on a ou qu'on a lus. Qu'on n'a pas forcément physiquement chez soi, hein. Des livres qu'on a lus quand on était jeune ou qu'on a chez soi en scannant les codes-barres, et l'expérience démarre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez déjà votre bibliothèque qui se classe automatiquement, vous avez les premières recommandations personnalisées pour vous.
C'est en fonction de ce qu'on a lu.
En fonction de ce que vous avez lu, et c'est là vraiment le gros apport de Glyph et la technologie qu'il y a derrière. Et ensuite, il y a du social, c'est-à-dire qu'on peut parler aux gens qui ont lu le même livre que vous, qui ont les mêmes goûts que vous. Vous pouvez discuter, regarder les avis, débattre, refaire du club de lecture comme ça existe de moins en moins, mais on peut le refaire sur le numérique.
Et les clubs de lecture à l'ancienne, autour
exactement.
D'un thé.
Mais maintenant, nous on en a beaucoup, on a 200 000 étagères publiques. Donc les étagères publiques, c'est un groupe de livres avec une discussion et des gens qui sont abonnés. Et on en a déjà 200 000 qui ont été créés, c'était un raz-de-marée en quelques semaines. Donc ça couvre en effet l'usage de clubs de lecture, ça couvre la discussion entre amis pour dire voilà ce que j'ai lu cet été, c'était bien ou pas, on peut rajouter des livres, les supprimer, etc. C'est génial.
Et est-ce qu'on peut rajouter uniquement des livres francophones ou c'est peut-être des livres d'une autre langue ?
Alors pour l'instant on est sur la version, en parlant de la version française, donc francophone, on peut rajouter des livres, toute l'édition française francophone. Il y a deux versions qui sont aujourd'hui en test depuis bientôt 6 mois, anglais et français, où en effet on pourra rajouter toute l'édition anglophone et hispanophone. Évidemment, il y a un challenge un peu sur la donnée, parce que les données sont plus compliquées à avoir dans le monde espagnol et le monde anglophone, parce qu'il y a plus de pays. Donc, on y travaille et on va y arriver.
Ok, donc francophonie pour l'instant et à venir
aujourd'hui, toute l'édition française.
Ok, très bien. Votre cible, vos utilisateurs en moyenne, est-ce que vous connaissez leur âge, leur profil ?
Alors, il y a quelques particularités. Globalement, on a tout le monde. On a à peu près tout le monde. Il y en a des gens qui ont 75 ans, 80 ans. On a des très très jeunes. Globalement, il y a deux informations. La première, on s'y attendait un petit peu. Public plutôt féminin. On est à 65% de public féminin. Ouais. Mais on s'y attendait. Parce que c'est le livre. Le livre en France.
C'est vrai.
Oui, c'est 70%
je pensais pas que c'était autant.
Ouais. Féminin, ouais.
D'accord.
Donc nous, on est un petit peu moins. Donc on a réussi à équilibrer un peu plus les choses. Et ça s'équilibre de plus en plus avec le temps. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est qu'on s'y attendait pas. Et c'est une bonne nouvelle. C'est un public jeune, beaucoup plus jeune que ce qu'on pensait. On est à 50% de 18-34.
C'est génial. On dit qu'en France, les jeunes ne lisent pas assez, sont incultes.
Ouais, c'est un serpent de mer qui nous vient de je ne sais où. Les jeunes ont toujours lu, lisent de plus en plus. Ouais. Il y a une étude qui a un peu moins de 2 ans qui confirme que les jeunes lisent et ils lisent beaucoup. Lire, c'est lire de la BD, hein, c'est lire des mangas,
c'est lire de tout.
Ça reste des livres, exactement. Et ben non, les jeunes lisent beaucoup. Et c'est pas vrai, hein. On n'a jamais autant lu.
Très bien. La plupart de vos utilisateurs, est-ce qu'on peut utiliser, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des groupes, on peut partager avec les autres. Est-ce qu'on peut ne pas le faire si on n'a pas envie, si on veut simplement utiliser l'application pour nous aider à avoir les bons livres, les bonnes recommandations, etc. Est-ce qu'on peut, faire ça aussi ?
Complètement. En réalité, c'est le gros usage. 70% des utilisateurs font ça. Il y a une bonne moitié qui font un peu de social, hein, qui font du club de lecture. Mais en réalité, l'usage le plus simple, le plus immédiat,
c'est sa bibliothèque.
C'est organiser sa bibliothèque.
Ouais.
la faire classifier automatiquement, etc., la retrouver, savoir qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on n'a pas lu, etc. Et surtout, le gros sujet, hein, c'est le gros apport de Glyph, c'est la recommandation. Ouais. Ultra personnalisée, on a travaillé 4 ans sur cet algorithme, ouais. Donc c'est une intelligence artificielle qui nous a pris beaucoup de temps pour fonctionner. C'est très compliqué de faire de la recommandation sur le livre, parce que, alors déjà dans la musique c'était bien compliqué, hein, Spotify et Deezer ont réussi, ont ouvert la porte et les autres sont engouffrés, mais sur le livre c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus d'offres, ouais, il y a une offre gigantesque. Et puis la consommation du livre et de la musique est différente. On a beaucoup plus de données de consommation sur la lecture, sur la musique. On sait quand est-ce que les gens ont appuyé sur play, on sait quand est-ce qu'ils ont arrêté. Sur le livre, c'est beaucoup plus
compliqué.
C'est
moins évident, ouais.
En France, on parle de 75 000 nouveaux titres par an. Nouveaux titres différents et 3,5 millions de titres à la vente. Donc d'accord. C'est complètement gigantesque, très difficile. Il y a des styles très différents. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs. Donc voilà, donc la recommandation, c'est un gros challenge et on a réussi.
Donc là, plusieurs années pour créer cet algorithme.
Oui, 4 ans.
4 ans.
4 ans de développement.
Que donc vous avez fait avant la création de l'application.
Oui, et on a sorti l'application une fois que l'algorithme était prêt quasiment.
Et du coup, alors, ça date de quand le commencement de la création de l'algorithme.
Alors, le tout début, donc première ligne de code, je pense que c'était en début 2015.
Ouais.
Et premier groupement de testeurs, de 500 testeurs, on était en 2018. Donc
d'accord.
Ça, c'est pendant un an, on a travaillé avec un groupe de bêta-testeurs, d'alpha-testeurs, puis de bêta-testeurs. Et l'application, fin 2018, ouverte au grand public, est promue depuis 2019. Donc là, on devrait arriver aux 400 000 utilisateurs actifs.
D'accord. Et d'ici la fin de l'année, vous visez un million d'utilisateurs, ce qui est génial.
Oui, ce qui est génial. Alors si vous voulez, dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs théories, hein, mais dans les réseaux sociaux, déjà, il y a un premier seuil qui est autour de 70 000. Ça, c'est intéressant, ouais, pour les autres startups. Hein. Il faut tenir le coup jusqu'aux 70 000.
C'est le cap des 70 000.
Il y a un cap un petit peu mathématique qui fait qu'à, ouais, 70 000, on est à peu près rassuré.
D'accord. Ça devrait, ça peut pas redescendre.
Ça devrait plus s'écrouler. Okay. Ça devrait plus s'effondrer sur soi-même. Parce qu'il y a, beaucoup trop de gens et beaucoup trop de relations pour que ça s'effondre.
Okay.
Donc c'est un cap intéressant. Et ensuite, il y a les caps un peu plus
symboliques,
hein, 500 000, 1 million. Voilà. Mais le réseau social, il faut réussir à avoir du 6 chiffres, à peu près 100 000, avoir 30% de gens qui font du social, et ça ne s'écroule plus, parce que ça diffuse de plus en plus, forcément.
Ouais, forcément, hein.
Donc ça accélère,
ouais,
et puis ça accélère. Donc c'est pour ça que nous on voit cette accélération, on n'est plus en progression linéaire, c'est forcément exponentiel.
Aujourd'hui, comment vous vous faites connaître ?
Principalement par le bouche à oreille, et on fait du marketing ciblé sur les réseaux sociaux. Donc pour pas les citer, c'est Facebook, Instagram, beaucoup Instagram.
Oui, plus maintenant.
Oui, c'est 80. D'abord, on choisit pas, hein, de faire la différence entre Facebook et Instagram. C'est Facebook et Instagram qui décident.
Qui décident, ouais.
Oui. Évidemment, ça marche beaucoup mieux sur Instagram.
D'accord.
Parce que Instagram, il y a toute une communauté de lecteurs,
oui,
de bookstagrammeurs,
oui,
de bookstagrammeuses, je devrais dire, hein, mais bon. Voilà, donc ça marche très très bien.
Il y a les éditions ensuite, aussi, toutes les éditions qui ont des comptes.
Exactement, tous les éditeurs qui sont mis, les auteurs aussi,
ouais, les auteurs,
etc. Donc nous, on essaie d'apporter justement encore un autre niveau de lecture, c'est drôle, un autre niveau de lecture de l'objet social, de l'objet réseau social, en mettant le livre au centre du sujet, et pas juste mes photos avec un livre. C'est vraiment le livre, le résumé, des avis, des commentaires, des discussions. Donc on rentre dans quelque chose qui a un peu plus de sens.
Plus en valeur le livre, en fait.
Plus en valeur le livre
que la couverture.
Que mes photos de vacances avec un livre au bord, ouais, de la mer. Enfin, c'est un peu plus... Mais sans tomber dans le littéreux et dans le pompeux intellectuel, etc.
Ouais.
C'est léger.
C'est pour donner envie aux gens, en fait.
Exactement. Nous, notre but, c'est de faire lire les gens. Plus ils lisent, plus on est content.
Justement, parlant marketing, vous visez un marketing nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors déjà, dans un premier temps, en réalité, ce qu'on fait, c'est, je vais parler un petit peu du modèle économique. Hein. Le business model, il est orienté autour de cet algorithme de recommandation. Ouais. Donc avec cette technologie-là, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Fahrenheit, qu'on a développée. On arrive à faire tout notre modèle économique. Premier pan, je vais les citer rapidement. On fait de la recommandation pour les sites web. Quand vous êtes sur un site web, on a plusieurs clients. Sur un site web, vous avez, quand vous regardez un livre, souvent on vous propose des livres que les autres personnes qui ont acheté ce
qui
livre
ont acheté ce livre, voilà, oui, c'est
alors,
vrai.
Une fois sur deux ça marche pas,
c'est sûr,
c'est très difficile. Alors nous on a une recommandation qui est beaucoup plus précise, qui est beaucoup plus pertinente,
plus smart
parce qu'elle est liée aux bibliothèques réelles des gens et d'accord, pas juste un achat.
Okay.
L'achat, ça ne veut rien dire parce qu'en plus, on achète la plupart du temps, on l'achète pour quelqu'un d'autre,
oui, c'est
à 40%.
Vrai.
Donc, il n'y a pas de profil réel, ouais, en fait, quand on utilise ces données. La réalité, nous, on utilise des données parfaitement propres, très liées à la personne. Donc, évidemment, c'est plus pertinent. Et puis, notre algorithme est très efficace. Donc, on a des données propres et on
c'est
a bien
meilleur.
Travaillé. donc, ça, c'est pour faire de la recommandation. Ensuite, c'est les éditeurs. On travaille pour les éditeurs. Les éditeurs, ils ont, comme je disais, une offre gigantesque, pléthorique. Ouais. Et le challenge, c'est comment trouver les bons lecteurs pour chaque titre. Donc là, nous, on les aide avec cet algorithme. Dans l'autre sens, au lieu de trouver des livres aux lecteurs, on trouve des lecteurs aux éditeurs. Voilà, donc en leur disant, voilà, pour ce titre-là, nous, on a une population qui correspond parfaitement. Ça va leur plaire et on va pouvoir faire de la promotion pour vous sur Glyph, mais aussi sur les réseaux sociaux en utilisant une technologie de ciblage de Facebook et Instagram.
Donc c'est inversé, en fait.
C'est inversé, tout à fait. Et là, c'est le marketing digital spécialisé pour le monde de l'édition. Ils ne savaient pas le faire. Tout le monde sait faire du marketing digital. Mais là, c'est vraiment
c'est
un outil
précis, hein,
spécialisé pour le livre.
Et alors, ce marketing nouvelle génération?
Alors, évidemment, donc, quand on le fait pour l'édition, parce que y a l'algorithme nous dit tel titre ou tel auteur, on connaît la population. Maintenant, nous, on veut l'étendre. On va l'étendre, on est en test sur d'autres domaines. L'idée, c'est de l'étendre et de faire du marketing culturel. Je vais vous donner un exemple. Si on a un annonceur qui veut promouvoir des vélos, nous, on sait très bien trouver une population qui est sensible culturellement au vélo.
Ouais.
Et non pas parce que vous avez cliqué une fois sur une publicité pour un vélo. La plupart du temps, quand vous avez cliqué une fois sur une publicité pour un vélo, pendant un mois, on vous propose des vélos.
C'est vrai.
La plupart du temps, vous l'avez
sur
déjà.
Sur toutes les apps.
Sur toutes les apps. Donc c'est complètement transverse.
Ouais.
Ça, c'est très agaçant. La plupart du temps, vous l'avez déjà acheté.
Oui, donc on s'en
donc
fiche
on
après
s'en fiche
des vélos.
Un petit peu. Ouais. Et donc tout ça, on arrive sur un monde qui est en fin de vie, sur le marketing direct digital. En revanche, nous, ce qu'on propose, c'est un marketing culturel, par votre signature culturelle. Si vous êtes écolo, on peut le faire sur tous les produits, sur la cosmétique, si vous êtes... Voilà. Après, il y a un travail d'analyse à faire entre qu'est-ce que les gens qui sont plus à même d'être réceptifs à ce produit-là ont dans leur bibliothèque. Et là, une bibliothèque, ça définit très très bien les personnes.
Ah oui.
Bah oui, évidemment, il n'y a rien de plus précis pour définir quelqu'un que ce qu'il lit. Hein. Dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai qui vous êtes.
D'accord. Et du coup, c'est basé là-dessus. Donc, c'est moins intrusif technologie.
C'est beaucoup moins intrusif. Ça transforme le marketing en un marketing de service et non pas un marketing agressif de demande.
Ouais. Parce que là, on parle beaucoup des cookies. En ce moment, c'est un peu mode voilà, on a envie de refuser.
Oui, et puis de toute façon, ça arrive en fin de vie. C'est ouais. Un système qui va être interdit dans un an. Donc, il faut trouver autre chose. Et puis, tout le monde connaît le fameux mot de l'histoire. Hein. Tout le monde sait comment ça marche.
Bien
donc,
sûr.
Quand on sait comment ça marche, on a tendance
c'est
à s'organiser.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment une nouvelle vision du marketing, qui n'est pas un gros mot. Hein. C'est normal d'avoir l'information de produits. Il
n'y
a,
oui.
a rien de méchant non plus. Hein. Mais si on le fait de manière moins intrusive, plus intelligente, je pense que c'est une solution, c'est une belle alternative à tout ce monde-là.
Et donc là, c'est en test en ce moment?
C'est en test avec des marques de cosmétiques, marques de mode aussi. Et voilà, on va faire avec quelques marques en test. Et puis l'étendre, l'idée, c'est de l'étendre en 2022.
D'accord, début d'année 2022, que ce soit officiel.
Alors c'est un système qui marche sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ouais. que nous, on a une technologie qui permet de trouver un cœur de cible de lecteurs et qu'on arrive à étendre sur les réseaux sociaux à une population beaucoup plus large, mais qui correspond avec les mêmes critères, qui correspond aux bons critères.
Aujourd'hui, Glyph, du coup, c'est combien de collaborateurs?
Si on est une vingtaine de collaborateurs, principalement, donc il y a toute la partie développement informatique de l'application en tant que telle. mais aussi des gens qui sont un peu plus spécialisés dans le livre et le monde du livre, oui, pour pouvoir parler aux éditeurs toute la journée, pour pouvoir promouvoir des produits, parler aux grandes librairies qui ont des sites web qui veulent faire de la recommandation sur leur site web, parler aux grands groupements d'édition qui ont des gros sites web aussi, des choses comme ça.
Vous avez du coup des personnes qui se rendent chez les éditeurs dans les maisons d'édition, qui les rencontrent.
Exactement, qui sont toute la journée en frontal avec des maisons d'édition, avec des auteurs aussi, parce qu'on on commence à proposer des produits pour les auteurs. On fait des interviews, des packages un petit peu de promotion de l'auteur en tant que tel, ouais, au sein de l'application, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est un monde qui est entre la technologie et le livre.
Vous êtes basé à Paris ?
Paris et avec La Rochelle aussi pour la partie développement informatique. Ouais.
Vous êtes deux cofondateurs à la base. Comment est né ce projet ? Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parti d'un algorithme que vous avez d'abord créé. Oui. Comment vous avez eu l'idée de cette start-up ?
Donc c'est intéressant parce qu'on l'a eu avec Guillaume Debecq, qui est mon associé cofondateur et président de Glyph. On a eu deux histoires parallèles pour arriver à la même finalité, c'est-à-dire il faut créer une application autour du livre qui ait un peu plus de sens que des réseaux sociaux avec des vidéos de chats ou je ne sais pas, qu'on en a marre, on l'a tous vu 5500 fois, et qui finalement nous définissent très peu. On ne se définit pas par ces photos de vacances, on se définit pas.
C'est vrai.
Il y a peut-être des choses plus intéressantes que des photos de vacances qui sont intéressantes par ailleurs, mais qui ne nous définissent pas entièrement. Donc on est arrivé par deux chemins différents. Lui son chemin, c'est, donc il était expatrié. Et il avait beaucoup de difficultés dans les pays où il était à trouver des livres en français.
Donc, d'accord.
Il racontait souvent cette histoire au Congo, à Kinshasa, où il a vu deux parents s'écharper pour un bouquin francophone d'occasion à la braderie du collège.
Ah oui, c'est à ce point. Ouais.
Mais oui, parce qu'il n'y a pas de librairie. Donc, ouais. Puis il s'est dit, mais en revanche, il savait qu'il y avait des livres, parce qu'il y a des gens qui ont leurs livres. Comment les trouver ? Donc c'était un peu ce chemin-là. Il y a des gens qui ont des livres, j'ai pas accès à eux parce que j'ai pas l'information et puis j'arrive pas à leur parler. Donc ça, c'est moi, c'était plus sur un aspect social. C'était la fameuse histoire de rencontre dans le train. Quand ça arrive à peu près à tout le monde, on rencontre quelqu'un dans le train ou on voit quelqu'un dans le train ou ailleurs ou dans le métro qui lit les mêmes livres que nous. Ouais. Et puis juste après, cette personne disparaît et c'est fini. On lui reparlera plus jamais. Donc moi je me suis dit ce petit moment subreptice là est très agréable, où on se dit je suis pas le seul à lire ce livre là,
parce que c'est vrai que ça fait quelque chose,
et puis le livre, c'est quand même l'un des seuls biens culturels qu'on consomme tout seul. On est un peu dans son coin, on consomme tout seul,
on a besoin de personne
c'est impossible, on peut pas lire en même temps, on peut pas lire à deux sur un livre, donc je me suis dit, donc là on peut le faire tous les jours, vous prenez un livre, vous dites, vous le scannez sur l'application, vous appuyez sur le bouton « Je suis en train de le lire » et vous avez toutes les personnes qui sont en train de le lire en même temps que vous, et vous pouvez leur parler tout de suite.
Oui, c'est vraiment de l'instantané.
C'est de l'instantané, puis c'est social.
C'est génial.
C'est social par le livre. Et le livre, c'est un icebreaker incroyable. On fait tout de suite confiance à quelqu'un qui lit le même livre que nous.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. On se dit, on raisonne peut-être de la même manière.
Exactement. Exactement, et puis il y a une complicité, une complicité assez, assez incroyable grâce au livre. Donc moi, c'était plutôt ce chemin-là, et donc une rencontre grâce à un ami en commun,
Donc tous les deux, vous ne vous connaissiez pas quand vous vous êtes dit chacun de votre côté, une app sur les livres,
grâce à cet ami en commun qui avait entendu les deux histoires, et donc on s'est rencontrés à midi, à 14h on avait commencé la société.
Ah oui, ça a été rapide.
Oui.
Vous avez tout de suite su que ça matcherait avec cette personne professionnellement ?
Oui, en fait, il faut penser. Moi, si j'ai un conseil à donner, il y a un seul et unique sujet, c'est les valeurs. Si vous avez les mêmes valeurs, faut foncer, faut y aller. Le reste, vous verrez. Le reste,
mais
c'est de la contingence.
En deux heures, on peut voir si la personne.
On peut voir, on peut voir s'il y a des valeurs. Bon, évidemment, après, il y a aussi une caution. S'il y a des intermédiaires, etc., il y a une caution intermédiaire qui fait le travail. Mais il faut s'attacher à ça. Il faut moins s'attacher aux compétences, autre chose. Ça va venir. Et puis les compétences, il y en a toujours. De toute façon, les fondateurs, c'est ceux qui sont, moi, ce que je dis toujours, les fondateurs, c'est ceux qui ont aucune obligation de compétences pour l'instant.
Oui, ils s'entourent de gens compétents.
Exactement. On n'a aucune obligation de compétences. C'est très agréable. Donc, il faut foncer sur les valeurs.
D'accord. Donc là, même valeur, c'est quoi les valeurs importantes ?
Là, les valeurs, c'était de donner du sens à quelque chose qui nous paraissait en perdre. Et c'est pas que. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est le sens. Qu'est-ce qui a de plus de sens aujourd'hui que le livre? Et puis surtout les réseaux sociaux qui étaient en. Pas en fin de vie, mais il y a quelque chose qui change hein, dans les réseaux sociaux. On est au paroxysme du paraître. Il y a très peu de choses profondes. Et quand on voit des réseaux sociaux comme Twitter, qui, lui, où il y avait un peu plus de sens, qui s'est transformé en une agora d'engueulades sans fin. Ouais. Donc il fallait vraiment proposer quelque chose de nouveau.
Ça vous pesait, ça, le fait de voir les réseaux superficiels, souvent malveillants?
Exactement, et c'est l'agressivité du monde extérieur qui est rentrée dans les réseaux sociaux, ou alors les réseaux sociaux qui s'est transformé en, comme je disais tout à l'heure, en recueil de photos de vacances et des vidéos de chats. Ouais. Et finalement, c'est ça qui ne permet pas de nous élever. Alors qu'il y a quand même des gens dans les réseaux sociaux, il y a des gens, donc forcément, évidemment, il y a des gens intéressants, il y a des gens qui forcément auraient pu nous élever, et on y a accès sans y avoir accès. On a accès à ces gens-là, mais on n'a pas accès à ce qu'ils pourraient nous apporter. Alors que sur Glyph, vous avez accès à quelqu'un, déjà c'est avec vos propres amis, où on apprend sur Glyph ce qu'ils lisent. Et là, on a une vision différente de ses propres amis. Ouais. Ça, c'est le premier. Et ensuite, avec des inconnus, c'est absolument génial, parce que vous voyez deux, trois livres en commun avec quelqu'un, vous vous dites a priori qu'il faut que j'aille regarder ce que cette personne lit, ce que cette personne fait aussi dans la vraie vie, dans les réseaux sociaux, ou sur ses réseaux sociaux, les autres. Mais donc il y a vraiment quelque chose de très puissant avec les livres. C'est peut-être moins vrai avec la musique, hein, parce que la musique, bon,
c'est plus généraliste,
on écoute à peu près. Et puis il y a quelque chose de plus émotionnel dans la musique.
Ça demande moins d'efforts aussi d'écouter une musique.
Ça demande beaucoup moins d'efforts. Exactement, ça c'est un très bon point. Cette relation de confiance qui se crée grâce au livre, elle vient du fait de l'engagement, parce qu'on lit pas un livre en 10 minutes pour dire que je l'ai lu. Il y a un effort.
Ouais,
il y
a un effort à faire. Du coup, votre parcours avant Glyph?
Avant Glyph, moi j'étais ingénieur de formation. Ouais. J'ai fait du conseil dans des grands groupes.
Salarié du coup?
Non, j'ai toujours été
indépendant.
J'ai toujours été indépendant, mais dans des grands groupes. Donc d'abord en télécom, puis en télécom strat. Et si vous voulez, c'était le parcours grand groupe un peu classique. Donc enfin classique, très grand groupe. Je fais EDF, Total, Sanofi, ouais. Areva, L'Oréal. Donc et puis là,
40,
la bascule, ouais, et la bascule entière en quelques jours du monde du grand groupe du monde de la start-up.
Qu'est-ce qui s'est passé alors dans votre tête? Comment vous avez
souffert? C'est table rase. Table rase, mais il faut... Alors moi, je suis complètement contre cette dichotomie qu'il y a entre les grands groupes et le monde de la start-up, un peu plus réactif, plus léger. C'est pas vrai.
Plus agile.
C'est pas vrai. Moi, je suis pas complètement d'accord. C'est pas vrai. Dans les grands groupes, il y a des petits services qui sont hyper efficaces et très agiles, qui arrivent à faire des choses.
Parfois, c'est un peu... Quand il y a une décision à prendre, ça met quand même plus de temps que pour une start-up. Hein.
Quand il y a des décisions à prendre, ça je suis d'accord. Sur la chaîne de commandement, évidemment, mais sur la création de valeur, sur inventer des choses, faire des choses très efficaces et la rigueur qu'il y a dans les grands groupes, et on peut pas jeter la pierre aux grands groupes. Hein. Ils ont créé ce niveau d'exigence qui permet à plein d'autres gens qui sont passés par ces grands groupes de pouvoir monter des start-up et travailler efficacement.
En gros, c'est l'école des start-upers.
Je trouve qu'il ne faut pas les mettre en concurrence. Il ne faut pas dire qu'il y a deux mondes. Non, il y a un monde qui a aidé beaucoup l'autre.
Qui inspire l'autre, en fait.
Et maintenant, ça va dans l'autre sens. Maintenant, c'est les start-up
qui inspirent les grands groupes.
Oui, mais les grands groupes ont quand même fourni beaucoup de ressources intellectuelles aux start-up aujourd'hui.
Ouais, donc maintenant ça va un peu dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens.
Vous avez eu envie de passer.
C'est plus pour avoir pour créer quelque chose avec un impact direct. La start-up, la création en start-up, c'est une simplification de l'effort professionnel en fait. On voit tout de suite ce qu'on fait. Ouais. Dans les grands groupes, on a un peu plus de mal. Mais en réalité, on fait des choses. Il y a des choses géniales, des choses qui arrivent dans les grands groupes. On arrive à créer, on arrive à faire. Mais on voit moins le bout du tunnel et le bout de la chaîne de création. la start-up, on voit tout de suite, hein, on fait une application, il y a des gens qui sont contents, ils vous l'écrivent, vous avez des commentaires, vous êtes tout de suite rétribué, c'est quelque part.
Ah oui, ça manque de rapidité en fait.
Ça manque
dans
de rapidité,
groupes,
oui, on ne sait pas exactement ce que ça a fait.
Vous avez envie d'être impactant.
D'avoir un impact plus lisible et plus simple. Là, on est en direct avec nos abonnés, on leur parle, ils nous parlent beaucoup, hein, ils nous écrivent tous les jours en demandant des nouvelles choses, en nous encourageant, en râlant de temps en temps parce qu'il n'y a pas le livre qui est disponible sur l'application qu'il faut le rajouter tout de suite. Mais c'est le jeu, on est complètement d'accord. Donc voilà, c'est peut-être avoir un impact et avoir un impact qui correspond à ces valeurs. Nous, notre objectif, c'est de faire lire les gens. C'est de donner l'envie de lire.
À aucun moment, vous n'avez regretté d'avoir quitté ces grands groupes ?
Non, je crois que j'ai jamais regretté. Maintenant, il y a plutôt une envie d'aller encore plus loin, d'en faire encore plus dans le monde de la start-up. Et surtout sur le domaine des réseaux sociaux qui est quand même hyper compétitif. Il y a très très peu de réseaux sociaux qui marchent. Sur le bassin américain, il y en a à peu près 10 000 par an qui se lancent. On en entend parler d'une trentaine.
Ouais.
Une trentaine de nouveaux. Et encore, et sur les trentaines, il n'y en a que deux qui passent l'Atlantique. Oui, et le cap des 5 ans là-bas.
Ouais.
Qu'il faut passer. Il y en a même qui disparaissent. Je lisais encore un article hier sur les réseaux sociaux de vidéos instantanées. Il y en a eu plein avant TikTok. Et en fait, ils ont disparu, les Periscope, tous ces...
Oui, c'est vrai qu'il y avait Periscope, parce qu'il avait été inclus sur Twitter, je crois.
Oui, sur Twitter, mais il y en a eu plein. Et puis le premier, MySpace, qui a disparu, et qui était un succès phénoménal, et qui a complètement disparu.
C'est vrai que ça a disparu du jour au lendemain,
Oui, il y a des phénomènes assez étranges. C'est très compétitif, les réseaux sociaux. MySpace, les grands groupes, il y a des groupes aux États-Unis qui organisent le MySpace Day, où on va retrouver toutes les photos qu'on avait mises sur MySpace pour faire un peu de nostalgie. Donc c'est devenu une espèce de mouroir de nostalgie de l'époque des réseaux sociaux où on va retrouver ces photos.
Vous êtes fier aujourd'hui de ce que vous avez accompli de Glyph ?
Ah oui, complètement. Réunir 400 000 personnes autour du livre, c'est redoutablement gratifiant. Hein. Et autour de quelque chose qui a du sens. Et puis surtout des jeunes. Les jeunes qui disent que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'ils lisent pas, etc. Non, c'est pas vrai. Que les jeunes sont écervelés et courent dans les rues. c'est pas vrai du tout. Les jeunes lisent et ils aiment lire. Et nous, on est très fiers d'avoir trouvé une technologie qui fasse quelque chose qui ait du sens. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec les algorithmes, le méchant algorithme qui va remplacer l'humain, etc. Donc j'ai un peu cette sensibilité-là. Mais honnêtement, si c'est pour faire lire du livre, eh bien, pas de problème.
Et aujourd'hui, les investisseurs, c'est facile de les trouver. Il y a eu une belle levée de fonds.
Il y a une belle levée de fonds.
Avec la caisse des dépôts.
Oui, c'est facile de les trouver, oui et non. Oui, parce qu'on a des gens qui croient en nous, qui croient en l'équipe. Surtout, on a une super équipe assez expérimentée. Hein. À qui je rends hommage ici, parce qu'ils sont vraiment au top. Après, on est quand même ralenti par le vernis livre. Le monde de l'investissement a cette vision du monde du livre comme étant un monde vieux, calcifié, moribond, etc. Alors qu'en réalité, le livre fait autant de chiffres d'affaires que la musique et le cinéma réunis en France. Donc le livre se porte très très bien.
Ouais.
Il y a des centaines de maisons d'édition qui se portent très très bien.
Mais c'est vraiment des a priori fondés.
C'est des a priori
en fait.
complètement fondés. C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires le livre en France. C'est monumental. On devrait plutôt s'intéresser à ce monde-là au lieu de le traiter de moribond. Donc il y a eu cette difficulté-là liée au fait que le livre, c'est un petit peu le parent pauvre de l'entrée dans la technologie. C'est le dernier... pas encore fait sa transformation. Mais en réalité, il n'a pas fait sa transformation parce qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Hein. Un bouquin, c'est ultra technologique. Hein. le livre papier.
Oui, et puis moi, pour le coup, j'ai jamais pu passer aux Ivandais, enfin les tablettes, je sais même pas si ça marche encore. J'en vois de moins en moins.
Un
livre, ça reste un livre en fait.
Oui, le livre, ça fait 300 ans. C'est indémodable. Les liseuses, ça a déjà 15 ans. Ça a déjà 15, 20 ans.
Mais j'en vois moins, j'ai l'impression qu'il y en a moins.
En fait, c'est ce qui se passe. Il faut toujours regarder aux États-Unis ce qui se passe. Aux États-Unis, c'est arrivé avant et ça plafonne aux États-Unis. On est arrivé à 10% d'utilisateurs à peu près et ça plafonne. C'est pour les usages ultra particuliers des super gros lecteurs qui ont besoin d'avoir 50 livres sur eux.
J'ai un message de notre réalisateur Pierre-Yves qui a téléchargé votre appli et qui adore.
Ah bah génial, voilà, merci beaucoup.
Bah voilà, on a des utilisateurs en plus. On va faire de la pub parce que ouais, c'est vraiment, en tout cas ça nous plaît.
Génial.
C'est une super appli et bravo parce que c'est vrai que ça donne du sens et c'est génial que la jeunesse soit intéressée et se sente concernée et l'utilise. Merci beaucoup Khalil Mouna, donc cofondateur et directeur général de Gleeph, GLEEPH, pour ceux qui veulent la télécharger, allez-y, l'application est gratuite. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau.
Merci Bérénice.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.